Hervé Kempf, merci de me recevoir ici au Monde. Ça me fait un grand plaisir. Je suis lecteur de votre journal depuis 1976. Vous êtes journaliste et écrivain. Vous publiez vos articles notamment au journal Le Monde et où vous tenez régulièrement une chronique écologie. Vous avez publié plusieurs ouvrages dont je cite en 2003 La guerre secrète des OGM, le titre actuel du Monde. Peut-être vous me permettez de reproduire la une du Monde sur le blog, parce qu'on peut voir que il faut aussi dire l'organisme génétiquement modifié. En 2005, avec Jérôme Ecquet, un titre qui résume aussi bien le livre, Gaza, la vie en cage, et deux ouvrages qui font l'objet de notre entretien d'aujourd'hui et dont j'ai écrit le compte-rendu sur mon site internet. Il s'agit d'abord du livre Comment les riches détruisent la planète, paru aux éditions du Seuil en 2007, et de votre livre qui a paru l'an dernier pour sauver la planète. Sortie du capitalisme, également sorti aux éditions du Seuil. Deux titres qui résument sans ambages votre position. Vous êtes convaincu que le changement climatique ne tardera pas à arriver. Vous critiquez l'incohérence des activités de nos hommes politiques, qui mettent tout en œuvre pour relancer la croissance et qui participent aux conférences sur le climat en exigeant une réduction des émissions de CO2. Sans jamais présenter des propositions cohérentes. Mais votre critique va beaucoup plus loin. Dans votre livre « Comment les riches détruisent la planète », vous estimez que notre monde touche déjà un point de non-retour. Il ne pourra plus se régénérer. On y est déjà arrivé. Quels en sont les indices et nos élites, qu'est-ce qu'ils font?
Je ne dis pas qu'on est déjà arrivé à un point de non-retour. Voilà.
Donc il y a encore un certain temps.
Il y a un certain temps. Je ne sais pas dater cette échéance. Je pense en revanche que certain temps ne veut pas dire un temps infini. Et j'aurais même tendance à dire qu'il nous faut avoir modifié réellement notre trajectoire, avoir changé collectivement nos politiques et la relation même de l'humanité à la biosphère, j'allais dire, dans les 10 ans à venir. Je pense que cette échéance, malheureusement, est extrêmement rapprochée et qu'il nous faut compter sur 10, 15, 20 ans. Mais si d'ici, mettons 15 ans, nous n'avons pas changé la trajectoire. Je crains effectivement qu'on arrive à ces points de non-retour que vous évoquiez tout à l'heure.
Est-ce que Xynthia, que nous avons vu dimanche dernier, il y a un rapport avec ces changements climatiques?
Xynthia, c'est la tempête qui a frappé très lourdement la côte ouest de l'Atlantique, puis qui a eu d'ailleurs des répercussions en Allemagne, en Belgique, dans d'autres pays. Je crois qu'il faut toujours être prudent. Moi, je suis journaliste. Scientifique, mais je ne suis pas scientifique. Donc j'écoute ce que me disent les climatologues, dont j'éprouve quand même depuis 20 ans le sérieux et la pertinence. Ils sont toujours prudents. Ils nous disent, non, on ne peut pas dire que tel ou tel événement météorologique est dû au changement climatique. On ne peut pas affirmer que la grande canicule de 2005, je crois, était liée au changement climatique. On ne peut pas dire que la tempête... Donc on ne peut pas dire que la tempête Xynthia... et un effet du changement climatique. En revanche, je ne crois qu'on ne peut pas dire non plus l'inverse. Et même sans se poser la question, par exemple, en France et en Europe de l'Ouest, il y a eu plusieurs grandes tempêtes successives. Il y en a une en 1999, il y en a une autre en 2007, je crois, qui a ravagé la forêt des Landes. Il y en a à nouveau une maintenant qui est tout à fait exceptionnelle, avec une conjugaison de très fortes marées et de vents extrêmement forts. Je crois en revanche que ce que nous disent les climatologues, et je les crois sur ce point-là, c'est que le changement climatique, à mesure qu'il va se développer, parce que nous sommes déjà engagés dans le changement climatique, devrait se traduire par ce type, notamment ce type d'événements extrêmes. Je ne peux pas dire si la succession récente de ces événements est une preuve du changement climatique, ça n'est pas mon propos. En revanche, je pense que nous expérimentons les effets d'un changement climatique qui s'aggraverait.
Vous citez beaucoup de livres et d'études, votre bibliographie est très riche, mais vous insistez surtout sur les travaux de Thorsten Veblen. Quelle est sa position et pourquoi vous la partagez de cette manière?
Alors, Thorsten Veblen, Thorsten Veblen donc, était un économiste de la fin du 19e siècle qui vivait aux États-Unis et qui a écrit sa grande œuvre s'appelle La théorie de la classe de loisirs. Et je crois que sa théorie est très pertinente pour l'époque actuelle en particulier. Qu'est-ce que disait en résumé Thorstein Veblen? Il disait que dans presque toutes les sociétés, on observe une rivalité ostentatoire entre les individus. C'est-à-dire que les individus vont être en concurrence les uns avec les autres, pas de manière agressive, mais être dans une certaine concurrence pour manifester un petit peu plus de prestige, pour manifester une supériorité symbolique les uns par rapport aux autres. Et la deuxième chose qu'observait Veblen, c'est que dans toutes les sociétés hiérarchisées, les membres d'un groupe social qui sont donc en proie à cette rivalité ostentatoire, vont trouver le modèle de ce qui leur permet de montrer une petite supériorité à l'égard de leurs congénères en imitant les membres de la classe qui sont situés au-dessus d'eux.
Mmh. Et les membres, imitation, n'est-ce pas?
C'est de l'imitation.
Oui.
Et les membres de cette classe qui sont situés au-dessus sont eux aussi en proie à la rivalité ostentatoire et imitent ceux qui sont situés au-dessus. Et ainsi, de bas en haut de l'échelle sociale, tout le monde est finalement tourné vers ce que Veblen appelait la classe de loisirs, c'est-à-dire cette classe au sommet de la société, qui est extrêmement riche, qui détient tous les pouvoirs, et qui, par sa façon de vivre, définit le modèle culturel pour l'ensemble de la société.
Mmh.
Et alors, pourquoi la théorie de Veblen m'interpelle beaucoup, et je crois qu'elle est très pertinente pour l'époque actuelle, il suffit de regarder la publicité, la télévision, les magazines qu'on appelle en France...
J'ai un mobile plus sophistiqué que vous.
Ouais.
Non, pas du tout.
Oui, mais c'est ça. voilà, j'ai un plus beau magnétophone que toi, ma voiture est plus belle, mon costume est plus beau. Enfin voilà, toutes sortes de choses qui nous servent à manifester cette petite supériorité, ce petit supplément de prestige symbolique. Là, par exemple, l'échange que nous avons eu est très typique de la classe moyenne supérieure, par exemple. C'est, j'imagine que des prolétaires ou des ouvriers auraient d'autres types de rivalités, alors qu'en revanche, des gens beaucoup plus riches que vous et moi en ce moment diraient « Ah, mais tu as vu mon dernier avion » ou « Tu as vu mon yacht », etc. Et donc, pourquoi la théorie de Veblen est-elle très pertinente pour l'époque actuelle? Non seulement parce qu'elle décrit bien la sociologie, la façon dont nous vivons les uns avec les autres dans cette société de consommation, mais aussi parce qu'elle explique pourquoi l'extrême richesse et l'extrême inégalité de la société actuelle a un effet grave sur l'environnement, sur l'état de notre biosphère. Parce qu'effectivement, nous sommes à la fois la société la plus riche qui ait jamais existé à la surface de la planète, parce qu'on a une productivité très élevée, parce qu'on a une technologie, on a une maîtrise des sources d'énergie qui nous permet de transformer massivement la biosphère, mais aussi parce que nous sommes dans un modèle de surconsommation, de gaspillage, qui est projeté par la classe de loisirs, que moi j'appelle l'oligarchie, des gens qui sont en plus devenus immensément riches parce qu'il y a une inégalité énorme qui s'est répandue dans le capitalisme depuis une trentaine d'années. Et donc ce modèle de surconsommation est répandu à l'ensemble de la société. Et pas seulement dans votre société allemande ou ma société française ou la société américaine de Thorsten Veblen ou anglaise ou italienne. Donc pas seulement dans nos sociétés occidentales, mais aussi avec la mondialisation culturelle à l'ensemble du monde.
Oui.
Ça veut dire que quelqu'un qui vit à Jakarta, à Niamey, à Guatemala Ciudad, il vivra beaucoup plus pauvrement, généralement, que voilà, vous à Stuttgart ou moi à Paris, mais par la télévision, surtout, par les films, par la radio, par... Il saura comment nous vivons. Et même lui, ou elle, évidemment, sera attiré par cette façon de vivre et se dira, moi aussi, je voudrais vivre comme eux. Et donc, on a cet effet très puissant de la rivalité ostentatoire, du désir d'imitation, qui joue à l'échelle mondiale, dans une société très inégalitaire, et avec une oligarchie qui... projette un modèle de gaspillage et de surconsommation qui est énorme, parce qu'évidemment, ça se traduit par une consommation débridée et donc un impact sur l'environnement extrêmement important.
Et les rapports très étroits entre les questions sociales et l'environnement, ça m'intéresse beaucoup. Je pense que ce débat est moins perçu en Allemagne. Mais vos conclusions de votre livre sont encore très pessimistes. Vous voyez aussi un danger pour la démocratie. Vous pensez, par exemple, aux efforts de nos gouvernements de contrôler de plus en plus ces citoyens, par exemple aussi le chip RFID, qu'on va aussi intégrer dans nos petites cartes d'identité bientôt. C'est-à-dire, on peut savoir à quel moment qui est-ce qui a acheté quelque chose. J'ai dit une fois à mes élèves, je n'ai pas pu venir très tôt ici. L'agent qui m'a vendu la carte m'a dit, vous n'avez pas rendu vos livres à la bibliothèque.
Ah.
Dit ça, mais les élèves ont eu le même regard. Ils ont eu le même regard en me disant c'est pas vrai. Mais j'ai dit les informations, ce qui circule, peuvent être mises ensemble à n'importe quel moment.
Et oui,
vous l'évoquez aussi.
Oui, et même pour tout vous dire, je l'ai évoqué dans le premier livre, mais je travaille à l'heure actuelle beaucoup plus pour bien comprendre cette problématique. Et en résumé, je crois que l'évolution du capitalisme, des sociétés capitalistes, que je définis politiquement comme des oligarchies. C'est-à-dire, nous sommes en train de sortir d'un régime de démocratie et nous avons de plus en plus cette classe dirigeante, cette oligarchie qui prend le pouvoir et qui est attachée essentiellement à l'objectif de maintien de ses privilèges et de maintien de ses richesses. et qui donc, face à la montée évidente des tensions environnementales, qui se manifeste de plus en plus nettement, mais face aussi à la montée des tensions sociales, qui se manifeste par le fait que les classes moyennes sont en train de se rendre compte qu'elles sont grugées par les supposées élites, les classes pauvres aussi, les classes prolétaires se rendent compte que le sort qui leur est fait devient totalement injuste et totalement insupportable. On a donc une montée des tensions sociales aussi extrêmement importante. En tout cas, c'est le cas en France, et j'imagine que c'est le cas aussi en Allemagne. Et bien, face à cette double montée des tensions, on a une réponse très claire de l'oligarchie, on a une réponse du capitalisme qui est de recourir de plus en plus à la surveillance des populations, à la répression des militants et des rebelles, à le fichage généralisé, à l'emprisonnement d'un nombre de plus en plus grand de personnes, voilà, à tout cet ensemble de dispositifs qui reviennent à contrôler la société pour en quelque sorte l'empêcher de manifester son désaccord avec la politique qui est suivie.
Une de vos solutions à l'encontre de l'oligarchie, c'est de réduire les revenus de l'oligarchie, introduire un RMA, le revenu maximal admissible.
C'est un enjeu absolument essentiel à mon sens, c'est-à-dire qu'il est indispensable que les revenus de l'oligarchie soient réduits, et plutôt que de parler de revenus, il faudrait parler de vol. Il faut que le pillage des richesses collectives par l'oligarchie soit empêché. Nous sommes maintenant dans une situation où, par exemple, si on compare à ce qui se passait il y a une quarantaine d'années, les grands patrons capitalistes, les grands banquiers gagnaient beaucoup plus que les travailleurs. Et d'une certaine manière, c'est, j'allais dire, normal. Je ne sais pas où est la justice, mais en tout cas, ça ne paraît pas absurde qu'un chef d'entreprise, quelqu'un d'extrêmement important, gagne, mettons, 30 fois plus que le revenu moyen des personnes. En revanche, on atteint maintenant des niveaux de 300 fois, parfois beaucoup plus. Mais on a maintenant des dirigeants qui peuvent gagner 300 fois le revenu moyen d'un travailleur. C'est une situation absolument insupportable. Et c'est en soi un problème d'injustice évident. C'est aussi un autre problème parce que ça nourrit ce mécanisme de la rivalité ostentatoire dont nous avons parlé, puisque ces personnes sont tellement riches qu'elles peuvent dépenser leur argent dans une prodigalité totalement folle. Et puis, par ailleurs, c'est aussi un pillage, je maintiens le terme, le pillage d'une partie de la richesse collective dont nous avons besoin, à la fois pour, apporter de l'aide aux pays du Sud, aux pauvres dans nos pays, aux ouvriers qui vont perdre leur emploi dans des secteurs qui doivent changer, comme l'automobile par exemple, et ça nous concerne fortement en France et en Allemagne. Et puis, réorienter, réinjecter cet argent de façon à aider notre société à se réorienter vers une autre économie et à stimuler des activités qui ont un effet à la fois bien moindre sur l'environnement, qui créent de l'emploi, parce qu'il y a d'énormes possibilités d'emploi, on va en dire un mot, et qui répondent à des vrais besoins sociaux. Et donc à investir beaucoup plus dans l'agriculture, où il y a des possibilités de création d'emplois tout à fait importantes.
La revitalisation des centres-villes.
La revitalisation des centres-villes par un nouvel urbanisme, par de nouveaux métiers. Voilà, la santé, l'éducation, la culture, qui est un domaine qu'on néglige totalement, sans doute l'énergie, il y a aussi énormément de travaux à créer dans l'économie d'énergie. Enfin voilà, il y a tout un tas de domaines où notre société pourra trouver un nouvel équilibre, mais il est indispensable pour ce faire de capter ces quelques, 10% du produit intérieur brut qui a été capté par cette oligarchie et de le remettre au service de la société pour nous orienter dans cette voie-là.
Oui, avec vos positions, vous vous trouvez face au consensus. Parmi eux, il y a aussi le président de la République, M. Nicolas Sarkozy, qui a relancé la commission pour la libération de la puissance française, présidée par Jacques Attali. Le 23 février, l'Élysée indique, comme vous écrivez dans Le Monde le 27 février, « Il faut que la France s'inscrive, s'inscrive sur un chemin de croissance forte et durable. » C'est possible ?
Non, c'est absolument impossible. C'est ne rien comprendre à l'évolution historique. Si on regarde l'évolution des taux de croissance dans tous les pays européens depuis une trentaine d'années, depuis même une cinquantaine d'années sur une longue période, on voit très clairement que les taux sont en permanence en régression. C'est-à-dire qu'on a eu des croissances fortes au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, de l'ordre de 5 à 6 voire 7%, et puis ça continuellement décru depuis cette époque. Et pour une raison simple, c'est que nous avions dans nos pays des besoins de reconstruction après la Deuxième Guerre mondiale. Il y a une période tout à fait normale de reconstruction, d'innovation,
de
etc.
Croissance forte.
De croissance forte. Et puis progressivement, un certain nombre de barrières sont apparues. Et par ailleurs, nous arrivons à une certaine satiété des besoins. C'est-à-dire que nous n'avons plus besoin de faire de nouvelles autoroutes ou de nouvelles aéroports. Pour ne prendre que ces deux exemples-là, nous en avons déjà. Et en fait, nous en avons déjà trop. Donc, la croissance ne peut pas se poursuivre à un niveau élevé dans nos pays. La deuxième chose qui est intéressante à voir, et c'est très intéressant que ce soit M. Sarkozy, par exemple, c'est que M. Sarkozy est très clairement en France le représentant de l'oligarchie, je dirais le porte-parole de l'oligarchie. Il défend très clairement leurs intérêts. Sa première mesure symbolique, par exemple, en France, a été de faire une loi fiscale qui protège les plus riches dans notre société. Et en même temps, il dit il faut la croissance. Pourquoi ? Parce que cette obsession de la croissance, c'est le moyen pour l'oligarchie, pour les classes dirigeantes, d'éviter de poser la question de la justice sociale qui est absolument cruciale dans notre société. Quand on est en croissance, le gâteau va augmenter, croit-on. Il y aura toujours quelques miettes qui vont redescendre sur les classes populaires et les classes moyennes. Disons que, en tout cas, elles pourront maintenir apparemment leur niveau de vie. On n'est plus dans cette situation. La croissance ne va pas pouvoir continuer dans nos pays. Et donc, il faut poser clairement la question, une fois de plus, de l'inégalité, de la répartition de la richesse collective pour nous orienter dans une autre direction.
Votre dernier ouvrage, Pour sauver la planète, sorti du capitalisme, ne propose pas un avertissement, c'est une exigence. Nous avons déjà parlé des rapports entre l'écologie et les questions sociales. Maintenant, vous dénoncez la disparition de la solidarité. Et vous êtes convaincu qu'une croissance verte est un mirage. Le nucléaire, la voiture électrique, qu'on nous annonce déjà. Mercedes veut en construire une.
Renault aussi, ouais. Ouais.
Le nucléaire et l'énergie éolienne ne proposent plus de solutions miracles. Nous devrions aller beaucoup plus loin. Vous évoquez des formes alternatives d'économie, une refonte de nos habitudes de logement, une revitalisation de nos centres-villes. Comment peut-on engager ça sur une voie politique ?
En insistant sur le premier point que vous avez évoqué, c'est-à-dire pas chercher d'abord des réponses techniques ou économiques, mais de s'interroger sur notre culture commune. Et de voir que depuis une trentaine d'années, le capitalisme qui a connu son apogée a eu le très grand succès de réussir à généraliser à un point qu'on n'avait jamais vu, j'allais dire, la culture, la philosophie individualiste. Et donc de pousser chacun à chercher son propre avantage, à se sentir en compétition avec les autres et à considérer que le rapport marchand, la marchandisation de toute chose et de toute relation était le système le plus efficace. Et cette philosophie précisément individualiste, qui à mon avis est le cœur de la philosophie capitaliste, nous conduit à un mur.
Elle nous conduit.
Pardon ?
Doit être revu.
Je ne sais pas si on peut revoir une philosophie. Je crois qu'on en change. Je crois que l'esprit collectif doit retrouver absolument les idées de service public, d'intérêt général, de bien commun, et que surtout on a, je ne sais pas, c'est pour ça que je ne suis pas dans l'exigence, et je crois qu'une culture collective, une conscience collective ne se commande pas, ne se maîtrise pas, elle vient spontanément de la société, mais je pense qu'il faut aller dans ce mouvement qui est en train de se refaire très fort, de retrouver le principe de la coopération, de la communauté, de la solidarité. Mmh. Et donc de changer ces archétypes que nous avons dans la tête. Moi le premier d'ailleurs, je suis nourri de la culture de mon époque. Et donc, comme tout un chacun, je suis dans cette optique individualiste. Mmh. Il nous faut arriver à maîtriser cette tendance, j'allais dire, à retrouver beaucoup plus des valeurs de solidarité. C'est dans ce sens-là que la direction se trouvera. Après, on peut discuter des techniques, des voies économiques. Je dirais que c'est presque secondaire par rapport à cette question. Sur les voies économiques, quand même, il y a un enjeu tout à fait essentiel qui est l'action coopérative, la propriété coopérative des moyens de production. Je crois qu'il y a beaucoup d'exemples, mais d'ailleurs dans tous les pays d'Europe, en Allemagne, comme en France, comme en Italie, comme en Espagne, c'est-à-dire le principe que les travailleurs possèdent ensemble une entreprise. Ils ont un droit égal à la décision. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de directeur ou de président, il y aura une hiérarchie et on sera dans une logique de travail et d'efficacité productive, mais les décisions, le capital, les bénéfices sont répartis à égalité. Il y a une démocratie dans le travail qui est un élément tout à fait important pour retrouver dans l'efficacité économique cette notion de coopération. Ça n'est qu'un des exemples dans lesquels il nous faut, à mon avis, ce n'est pas dans lesquels il nous faut aller, c'est qui nous permettront d'éviter l'évolution vers ce capitalisme autoritaire dont on a parlé précédemment.
J'ai encore deux questions, si vous permettez. Jacques Attali a récemment imaginé la décroissance. La décroissance. Qu'est-ce que c'est ? vous y reconnaissez, je dirais, un tout petit élément de décroissance, mais cela ne suffit certainement pas. Il faut aller plus loin.
Moi, j'emploie pas le terme de décroissance. Alors là, vous faites référence à un jeu de mots un peu compliqué de Monsieur Attali, qui est en fait quelqu'un de très confus, même si c'est quelqu'un de très intelligent qui donne l'impression de bien penser le monde. Mais si vous regardez attentivement ce qu'il dit,
J'ai dû faire une fiche de lecture de bruit à Sciences Po.
voilà. bon, enfin, je vais pas accabler, mais c'est quelqu'un qui pense de manière très confuse et surtout dont les idées changent à travers les années. C'est-à-dire que, bon, peu importe. Moi, je suis pas dans cette logique de la décroissance pour une raison simple. Ce qu'on appelle la croissance, c'est la croissance du PIB, le produit intérieur brut. Or, le produit intérieur brut, qui est censé représenter précisément notre activité économique, est totalement faussé. Il est totalement faussé parce qu'il ne mesure pas l'impact de notre activité économique sur l'environnement. Or, maintenant, nous sommes dans une situation historique où cet impact sur l'environnement est absolument crucial pour l'avenir des sociétés humaines. Donc, il ne faut plus se référer au PIB. On est un peu dans la même situation de, je ne sais pas, on serait dans un bateau et on aurait une boussole qui marquerait systématiquement 40 degrés d'erreur. On ne pourrait pas avoir un bon cap en ayant une telle boussole. Il nous faut changer ce PIB. Donc moi, je ne suis pas pour la croissance
Oui.
ou pour la décroissance. Ce n'est pas mon problème. Je dirais, ça n'a aucun sens de
Non,
continuer à s'obséder avec ce PIB qui mesure mal notre activité. Donc il nous faut changer ici, en termes économiques et en termes techniques, il nous faut changer
un autre
de
système de
batterie d'indicateur.
mesure.
Il faut absolument un autre système de mesure. Peut-être d'ailleurs
Lequel?
qu'on pourrait
Vous avez
commencer,
une idée?
ouais, j'ai une idée, mais on pourrait aussi commencer à se dire, en allant plus loin, est-ce qu'il nous faut tout mesurer? Est-ce qu'il nous faut être dans cette tyrannie du chiffre? Est-ce que l'harmonie sociale se traduit forcément par la statistique, par la représentation en nombre? Est-ce qu'on ne va pas aller vers une société
Alors, nos hommes politiques aiment beaucoup les statistiques. Ils
Oui,
font toutes leurs
mais
décisions là-dessus.
vous avez bien
Ça a
compris.
déjà commencé sous l'Empire, sous le Second Empire. Ça a
Oui,
déjà commencé là.
mais les politiques, et particulièrement dans l'époque actuelle, font partie de l'oligarchie pour la grande majorité d'entre eux,
Oui.
défendent les intérêts de cette classe dirigeante. Et pour les intérêts de cette classe dirigeante, on l'a vu, il faut maintenir l'idéologie de la croissance à tout prix pour éviter les révoltes sociales.
Pensez
Mais,
déjà au
enfin bon, il y aurait déjà une question à se poser, est-ce qu'il faut tout mesurer? Est-ce qu'il ne faut pas que notre société trouve des manières plus fluides, une fois de plus qualitatives pour apprécier? Et au plein sens du mot apprécier, c'est-à-dire évaluer une chose en termes non
Qualité,
statistiques précisément,
oui.
mais après plus précisément, vous me demandez est-ce qu'il y a des indicateurs possibles? Ben oui, il y a bien sûr des batteries d'indicateurs différents, que ce soit l'indice sur le développement humain, que ce soit l'empreinte écologique qui est étudiée par un chercheur suisse, Matthias Wackernagel, que ce soit un certain nombre de choses, et qu'on s'intéresse beaucoup plus en revanche à des questions qui là sont pleinement mesurables, comme le chômage. Par exemple, qui me paraît tout à fait crucial. Donc oui, il y a des enjeux de changer ces batteries d'économique, de sortir de cette croissance du PIB qui est, je dirais, le principal problème, c'est que c'est vraiment une représentation totalement faussée de la santé de notre, même pas de notre économie, de notre comportement collectif social. Et là, il y a notre société et nos élites nous représentent mal, c'est-à-dire nous nous représentons par une image qui est totalement faussée. Et donc, fatalement, nous allons dans une mauvaise direction. Donc, il faut aussi, ça fait partie de la bataille politique, remettre en cause la façon dont nous représentons l'activité sociale.
C'est cela ce que vous allez aussi dire dans votre prochain livre?
Non, je ne vais pas tellement creuser cet aspect, je vais beaucoup plus travailler sur ces concepts de démocratie, sur ce concept d'oligarchie que j'ai évoqué, et je vais analyser en quoi l'arrivée de plus en plus claire de la crise écologique, et pas seulement du changement climatique, de la crise écologique, nous oblige, et particulièrement nous, dans les démocraties occidentales, qui avons cette culture démocratique quand même depuis 2 siècles, à repenser notre politique. Et le paradoxe, c'est que nous croyons être en démocratie alors que nous sommes en train de passer en oligarchie, et que pour parvenir à bien répondre à cette crise écologique, il va nous falloir reconquérir la démocratie et la reprendre aux mains de l'oligarchie.
Merci, Abécam. Merci pour cet entretien et j'espère de bien recevoir bientôt votre nouveau livre.
L'année
Merci bien.
prochaine, si tout va bien.
Très bien.
Merci.